Ça, on met une petite table pour les bénéficiaires, le temps d'attente en fait pour passer pour qu'ils prennent les denrées alimentaires. Donc bah on met à disposition une petite table avec du thé ou du café et puis bah de quoi grignoter. Et puis voilà. Donc par exemple là lundi prochain, enfin le mardi 8 décembre, on a prévu une distribution. Donc il y a le camion de la banque alimentaire qui arrive, il prend tout ça et puis il décharge les cartons pleins avec les denrées alimentaires. Donc juste ici, c'est là où on distribue les denrées alimentaires en question. Donc vous allez voir, tu peux rentrer Cédric. En fait, là, quand il y a des rayons ici, il y a toujours des bénévoles qui se mettent là. Et puis bah, le bénéficiaire, quand il rentre, bah, il rentre là, il prend par exemple ici, on a l'habitude de mettre du café, puis des pâtes. Ici, on a l'habitude de mettre tout ce qui est conserve de légumes et puis de viande aussi. Et puis là, on met tout ce qui est du thon, des sardines, et puis bah, des boîtes de confiture par exemple, ou des œufs ou de l'huile. On a quasiment tout type de denrées alimentaires. Et puis bah, on stocke le lait là-bas, bah, on distribue au fur et à mesure à tous les étudiants. Et puis bah, là, je consacre les deux tables ici, en fait, pour une petite association qui vient en aide. En fait, c'est une association de Yolen, on appelle ça association de Yolen, pour les fruits et légumes. En fait, ils nous donnent des fruits et des légumes. Ben, je demande toujours à ce que deux étudiants se mettent ici pour distribuer aussi fruits et légumes. Et puis voilà.
Oui, alors je me présente, je m'appelle Mohamed Touffet, je suis étudiant au Master 2 spécialité Finance et Contrôle Gestion, c'est ma dernière année. Je suis secrétaire de l'association, je suis bénévole depuis 2017. Alors, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence, pour l'intérêt que vous nous portez. En fait, la précarité touche précisément les étudiants étrangers et moi, j'ai passé par là. Je suis étudiant étranger, j'étais pas étranger. Je suis étudiant étranger depuis 2017 parce que j'avais déjà entamé mes études au Maroc. Après, je suis venu ici. Alors, j'ai vraiment vécu le choc, soit culturel. Au début, j'avais pas de ressources, j'avais pas de travail. Du coup, vraiment, j'ai vécu un petit peu la précarité étudiante. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'étais bénéficiaire des Halles d'Orablais pendant 3 mois. Après, bah, je me suis dit, parce qu'ils avaient déjà besoin de bénévoles. Bah, j'ai pris l'initiative et c'est pour ça. Manger, on n'a pas atteint ce degré-là de ne pas avoir mangé. Mais déjà, quand je suis venu ici, déjà, je n'avais pas d'hébergement. J'avais pas de réservation à l'hôtel. Je trouvais pas où dormir déjà. Je suis descendu à l'aéroport. Je suis allé voir le CROUS. J'avais pas rempli les formalités administratives. Du coup, ils m'ont donné vraiment une chambre, mais c'était dans un mois. Du coup, ce mois-là, il faut que je me débrouille tout seul. Du coup, j'ai trouvé un camarade de classe qui m'a hébergé pendant 20 jours. Ces 20 jours-là, je vais pas mentir, j'avais un petit peu d'argent de poche. Du coup, quand même, j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Surtout, je vais pas dire, j'accomplis tous mes besoins, mais surtout les besoins psychologiques, les besoins, comme vous avez dit, de manger, de sortir, de m'habiller un petit peu. Je vais pas le luxe, ni à l'époque, ni maintenant. Mais je trouvais quand même quoi manger et la personne qui m'a hébergé, que je tiens à remercier, c'était Omar Dakik. Du coup, maintenant, il est étudiant à Lille. Du coup, le premier mois, ça va, ça s'est passé. J'ai eu ma chambre ici à Gramont. C'est pour ça, en fait, j'étais un petit peu prêt à l'association. J'étais bénéficiaire, comme j'ai dit, pendant 2, 3 mois. Après, ils avaient besoin. Et moi, j'avais vraiment envie parce que j'ai galéré un petit peu. C'est pour ça, en fait, quand je vois les étudiants qui ont arrivé cette année, déjà, À mon époque, il n'y avait pas de Covid. Du coup, ça va, en mois de décembre, j'avais trouvé un travail. Je me débrouillais bien quand même. Un petit travail, juste histoire de payer le loyer, de payer des besoins de première nécessité. Du coup, quand je vois les étudiants en train de galérer, il n'y a pas de travail. Au niveau de logement, ça va. Le CROUS, ça va, ils sont accueillants, même au niveau de démarches administratives. C'est mon histoire.
Alors, mais qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas de sous et qu'on est étudiant?
Alors, alors, le plat préféré des Français, c'est les pâtes. Ce sont les moins chers. Je vais pas mentir. Les pâtes, le riz. Qu'est-ce que. Bah, les pâtes, les riz. Comme j'ai dit, c'est un petit peu le choc culturel parce que nous, au Maroc, on n'est pas habitué à tout ça.
On essaie de faire des courses à petit prix, en fait.
Voilà, on n'est pas habitué à tout ça. On n'avait pas de contraintes budgétaires. Du coup, et même au niveau d'habitude alimentaire et tout ça, il y avait un petit choc quand même. Mais bon, on arrivait quand même, comme j'ai dit, il y a le riz, les pâtes, bah les plats qui ont une valeur nutritionnelle et à petit prix. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, tu as toujours dans la tête, dans ton cerveau, le dirham marocain. Du coup, par exemple, quand tu vas par exemple au supermarché, tu vois par exemple, le moins cher, par exemple, on parle des tomates, le moins cher par exemple à 1 euro, tu le convertis directement au dirham, tu as 10 dirhams. Là-bas, avec 10 dirhams, avec 1 euro, tu achètes 5-6 kilos de tomates. Du coup, tu vois la différence. Surtout quand tu ne travailles pas, bah, tu vois la différence. Mais après, avec le temps, tu t'habitues, et bah, après, ça devient le moins cher. Voilà.
Au niveau des logements, etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans ton parcours ou c'était OK? Est-ce que tu as eu du mal à payer des factures d'énergie? Est-ce que tu as eu le froid en Touraine et l'humidité, est-ce que ça a été quelque chose de problématique pour toi?
Alors, moi, en fait, je suis logé ici au CROUS. Au CROUS, c'est des chambres, c'est des charges incluses. En fait, soit au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, ils sont isolés, ils sont rénovés. Alors, tout problème d'énergie, pour moi, ça n'existe pas. Ici, quand je parle ici de CROUS, quand je sors de CROUS, par exemple, le premier mois que je suis venu ici, j'ai dormi par terre sur des cartons. Du coup, on parle un petit peu de froid. Mais bon, quand on parle de la situation actuelle, bah, ça va, je ne trouve pas de problème d'énergie parce que toutes les charges sont incluses et le loyer, que tu peux payer facilement ton loyer. On va pas mentir. Après, avec les aides de CAF et tout ça, on arrive à s'en sortir quand même.
Voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Hamza, je suis étudiant à l'université de Tours. Je suis inscrit en L3 droit privé au titre de l'année 2020-2021. Je suis également président au sein de l'association Les Halles de Rabelais depuis le début de cette année. En fait, je mets le point sur ce qu'il a dit Mohamed par rapport à la question qu'a posée Cédric. En fait, c'était par rapport à l'énergie. En fait, nous, on ne peut pas savoir l'énergie, en fait, dont on a besoin, en fait, quand on est logé au CROUS. Par exemple, moi, depuis 2017, que j'étais au CROUS. Donc, j'ai vécu 3 ans au CROUS. On ne paye pas de charges. Toutes les charges sont comprises. On ne voit pas, en fait, l'intérêt du chauffage. Donc, c'est le moment où je suis sorti du CROUS et j'ai pris un petit appart, enfin, comme la plupart des étudiants français. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, par exemple, en contactant l'EDF, il m'a proposé des tarifs qui sont vraiment, on va dire, flagrants, parce qu'en fait, il m'a proposé 75 euros. Alors que 75 euros, si vous voulez, c'est le prix que je payais pendant toutes les 3 années en étant étudiant salarié. Ça veut dire, quand on dit étudiant salarié, ça veut dire que je travaille à temps partiel, des petits jobs étudiants. Donc, en question d'énergie, je vois pas vraiment quand on en a besoin, en fait, en étant résident au CROUS. Moi, quand je suis sorti pour chercher un appart, j'ai fait bah, je dirais comme peut-être partout, tous les étudiants le font. Ils cherchent un appart, ça veut dire qu'ils prévoient des prix qui sont un peu plus chers que CROUS. C'est bien. Mais par contre, comme je vous ai dit pour l'EDF, c'était vraiment très cher. Ouais, c'était très cher. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du terme énergie. Donc pour me réchauffer, il fallait que je paye. Par contre, comparativement au Crous, ben on paye pas. Donc on paye pour 9 mètres carrés, on paye 224 euros avec les aides de la CAF en fait pour les étudiants qui travaillent. C'est ça en fait, pour les étudiants qui travaillent, ils reçoivent beaucoup d'allocations, un prix plus élevé que les autres qui ne travaillent pas. En fait. Donc c'était mon cas, je suis tombé sur une dame qui ne m'a pas beaucoup expliqué. En fait, elle m'a dit, la locataire, parce que moi je connaissais la locataire qui était avant moi, c'est elle, on va dire, qui m'a cédé l'appart. Elle m'a dit, moi je payais que 19 euros. Alors que d'après ce qu'elle m'a dit la conseillère, elle habitait dans l'appart, là où je suis maintenant, il habitait pendant la période estivale. Donc, logiquement, elle n'utilise pas de chauffage. Donc, je lui dis, moi, tant que je n'ai pas prévu, en fait, assez de charges pour la facture de l'EDF, je lui dis, on peut partir sur sans chauffage. Voilà, donc on peut partir sur la même facture de 19 euros ou 25 euros, mais vous ne mettez pas de chauffage. Elle m'a dit, par contre, si vous mettez de chauffage, ça risque d'être une grosse facture.
Voilà. Donc hiver sans chauffage.
Voilà, hiver sans chauffage. Ouais. Tout à fait.
Comment survit à ça alors ?
Alors, moi franchement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vécu cette expérience. Hiver sans chauffage, heureusement que je ne l'ai pas vécu. C'est pas mon cas, j'ai pas franchement, je laisse Hamza qui va découvrir ça cet hiver.
Donc le meilleur est à venir.
Non, mais je comprends. Hiver sans chauffage, d'où votre présence déjà. Donc c'est pour nous soutenir en fait et pour nous expliquer s'il y a des astuces ou des techniques pour pouvoir se réchauffer.
Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé toi bénévole ici?
Voilà. Comment je me suis retrouvé bénévole ici, c'était le même chemin que Mohamed. On est arrivés tous les deux ici en 2017. On est tous les deux étudiants d'origine marocaine, sauf qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est connus ici. On s'est connus. On a commencé ici en tant que bénéficiaires, comme il a dit tout à l'heure. Quand on arrive ici, peu de ressources, pas de travail, pas de bourse, parce qu'en fait, les étudiants étrangers, sauf ceux qui sont vraiment excellents, qui ont des bourses. Donc nous, on n'était pas qualifiés vraiment au premier rang d'excellence. Donc ça, il faut le dire, avec toute honnêteté. Donc après, on arrive ici, on entend, bouche à oreille, on entend qu'il y a une association qui s'appelle les Halles de Rabelais, qui est sur le campus de Grandmont. Nous, on était juste à côté. Donc il y a plein de bâtiments ici. Presque 8 bâtiments, chaque bâtiment il a 250 étudiants. Donc on entend parler d'une association Les Halles de Rabelais qui distribue des denrées alimentaires pour pouvoir sauver les étudiants. On va dire, en fait ça peut dépanner, mais pas vraiment à long terme. Donc nous on a compris le truc, on s'est dit on va bénéficier cette fois-ci pendant 2-3 mois, voire une année, après on va se débrouiller. Et justement c'était le cas. Donc on a commencé à être bénéficiaire depuis septembre 2017 jusqu'au fin d'année, c'était juin 2018. Après, à partir du mois de juin 2018, on n'est plus bénéficiaire. Donc on a commencé, on a compris le truc ici en France, comment ça se passe. Parce que les étudiants, quand on regarde, les étudiants ont des voitures là maintenant, les étudiants ont un appart, l'étudiant est autonome, il peut décider, il est vraiment indépendant de ses parents. Ce n'est pas le cas au Maroc. Donc les étudiants sont toujours pris en charge. Je reviens toujours au Maroc parce que c'est vraiment à titre comparatif en fait. C'est les étudiants au Maroc qui sont toujours pris en charge, vraiment jusqu'à 28 ans voire 30 ans, par les parents qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais en fait je reviens sur le sujet. Début de l'année 2018-2019, on a commencé à être bénévole. Parce que l'étudiante qui était bénévole, qu'on a connu en tant que bénéficiaire, et nous a proposé d'être bénévole. On n'a pas refusé, on a accepté ça avec plaisir, parce que en fait, ça peut servir les étudiants qui étaient ou qui sont comme nous. Et puis, on a accepté cette idée. On est parti en tant que bénévole. Et l'année d'après, un de notre équipe, en fait, qu'on était trois amis, il s'est proposé d'être président. Donc, il a été élu président. Il est plus étudiant, donc il a été président l'année dernière. Et là, cette année, il est plus étudiant. Comme moi, je suis toujours étudiant en droit, parce qu'on n'avait pas le même parcours. Eux, ils sont arrivés ici avec une licence. Moi, je ne suis pas arrivé avec une licence. J'ai commencé en L1 droit. Bah après, moi, je suis élu président pour cette année. Donc, voici le chemin. En fait, on a commencé bénéficiaire. Et là, cette année, bah, au bout de 4 ans, moi, je suis président.
Est-ce que c'est la honte de ne pas avoir de sous ou d'avoir faim?
Pas du tout. Ce n'est pas une honte. Parce que, en fait, parce que c'est la vie étudiante, on peut le résumer dans 5 ans, 6 ans. Après, tu vas entamer ta carrière professionnelle. Alors, ce n'est pas une honte parce que c'est une période qui va passer. Et c'est tout. Après, tu vas t'en rappeler de ces années-là. Après, tu vas juste rigoler parce que tu n'avais pas de sous. Mais maintenant, dans le futur, tu auras ton travail pour lequel tu as galéré, tu as passé, on peut dire, des années sans vraiment des ressources. Parce que nous, par exemple, juste, Hamza, il a parlé des aides. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres contraintes en fait, parce que nous, les étudiants étrangers, même si on travaille, par exemple, moi je travaille maintenant 2 ans, 3 ans des jobs à temps partiel, on n'a pas le droit au chômage. Même si tu cumules des heures, tu n'as pas le droit au chômage. Par exemple, avec le Covid, si je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de ressources. Du coup, je retourne toujours à l'étape zéro, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, oui, il y a toujours des problématiques, mais comme j'ai dit, c'est une période qu'on va passer et après... Mais en fait, comme on a expliqué à la commission SVEC à la fac à l'université de Tours, il y a franchement une demande qui augmente de chaque distribution. Parce qu'en fait, comment on s'organise? En fait, on donne aux étudiants, tous les étudiants, ils ont 2 paniers d'urgence. C'est-à-dire sans ramener un justificatif de besoin. Après, les 2 paniers d'urgence, en fait, ils sont obligés d'aller voir les assistantes sociales. C'est eux, en fait, qui évaluent leurs besoins, s'ils sont vraiment dans le besoin ou pas. Alors déjà, nous, par exemple, la première distribution, on a servi combien? On a servi 148. La deuxième distribution, on avait déjà les 148 et on trouve 30 ou 40 qui viennent. Du coup, après, oui, il y a toujours une demande, surtout avec le Covid. Il y a une demande et nous, on ne peut pas satisfaire tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de denrées alimentaires, il n'y a que la banque alimentaire qui nous donne des denrées. Ce n'est pas qu'ils nous donnent, mais on paye. Mais on paye pas la totalité à 100%. Voilà, c'est symbolique. Bah, ouais, c'est ça, c'est un vrai problème. Quoi.
Alors, comment vous faites avec les étudiants s'il y a trop de monde, en fait, comment vous gérez en fait, le trop de monde? Est-ce que vous vous orientez vers d'autres institutions ou d'autres aides d'urgence?
Voilà, effectivement.
Bonjour.
Voilà, effectivement, en fait, si on reçoit beaucoup de monde, on ne l'a pas encore appliqué, parce que en fait, déjà dans le règlement, ils ont tous les étudiants, ils ont 2 paniers d'urgence. Alors normalement, à partir du 3e panier d'urgence, à partir de la 3e distribution, en fait, s'ils ramènent, s'ils apportent un justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on les accepte, on les accueille. Sinon, bah, on les redirige vers des associations comme il a dit Hamza Temilia, comme on a par exemple les Restos du Cœur qui aident un jour par semaine les étudiants. Voilà, nous, on ne peut pas recevoir tout le monde.
Donc voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est la banque alimentaire en fait qui nous fait un enlèvement chaque premier mardi du mois. Donc et nous, on fait ça dans les deux chambres. On a une chambre de stockage, on paye un forfait de 3 500 voire 4 000 euros par an. En fait, et à chaque mois, ils nous donnent 3 tonnes en fait de denrées alimentaires. Donc on stocke ça, on répartit tous les produits alimentaires, on les répartit pour les distribuer par 2 quinzaines en fait, le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Non, et le troisième mardi du mois, pardon. Donc ce qu'on fait dans notre première activité, c'est qu'on donne 2 paniers d'urgence à tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou pas. Et en fait, on leur demande au fil du temps, on leur demande à partir de la 3e distribution qu'ils prennent contact avec l'assistante sociale. Et c'est celle-ci qui va évaluer leur situation sociale pour dire est-ce que vraiment pour estimer leur précarité. Par exemple, on a des étudiants qui sont entre parenthèses profiteurs. Ils se sentent pas vraiment en précarité. Et du moment où ils partent voir l'assistante sociale, celle-ci, elle leur demande de lui envoyer les relevés bancaires. À ce moment-là, tout le monde s'abstient à le faire et tout le monde renonce à l'affaire.
Voilà, mais bon, comme il a dit, en fait, juste pour répondre à la question, S'il y a vraiment une demande croissante, ça te rentrait, oui. Par exemple, normalement, comme il a dit Hamza, on a un enlèvement par mois. On partage, on divise sur deux, pour deux distributions, par exemple, pour deux distributions par mois. Mais cette année, c'est exceptionnel. Pour la première distribution, on a utilisé toutes les denrées que la Banque alimentaire nous a données. Du coup, là, pour la deuxième distribution, on ne trouve rien à donner. C'est pour ça, après, on a trouvé des solutions, mais c'était juste provisoire. On a sollicité la Banque alimentaire pour qu'ils nous donnent plus de denrées, mais c'était exceptionnel. C'était hors forfait, mais c'était exceptionnel. Parce que, normalement, les années précédentes, on recevait entre 80 et 100 par distribution. Du coup, là, on était surpris. On a un petit peu accueilli 150 étudiants, la première distribution.
On est arrivé à 206 étudiants. 206. Voilà. En fait, quand je vous dis ce chiffre-là de 206 étudiants qui sont enregistrés dans notre ordi, en fait.
Voilà.
Donc, ces étudiants-là, pas forcément sont en précarité parce qu'ils ne sont pas encore évalués par l'assistance sociale. Voilà. Et l'assistance sociale, en fait, pour dégager un peu de responsabilité, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, elle nous demande, voire elle nous exige d'orienter les étudiants vers d'autres associations qui proposent la même chose que nous.
Parce qu'après, il faut le dire, même les assistantes sociales, elles n'ont pas en fait la capacité d'accueillir tous les étudiants. Parce que par exemple, quand on parle de 200 étudiants, ils sont deux. Ils sont deux, par exemple, les assistantes d'Université de Tours. Ils ne peuvent pas accueillir tous les étudiants. Parce que par exemple, si on a 200, par exemple, comme il nous a dit, ils ont 6 créneaux par jour. Si créneau, par exemple, voilà, six rendez-vous par jour, 6 fois 5, ça fait 30. 30, et il faut des mois et des mois pour traiter toutes les demandes. Ouais. Du coup, nous, on est obligé quand même de les accueillir. Même s'ils ne fournissent pas le justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on est obligé. Voilà, parce que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute non plus des assistants sociales.
En fait.
Mais c'est le système, il est comme ça. On est obligé de les accueillir. Mais après, comme il a dit qu'avec au fil du temps, normalement, ouais. ce nombre-là il se stabilise vers les 100 comme ça.
Ouais. Alors, je vois qu'il y a une jeune femme qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Andresa. J'ai 20 ans. Je fais L2 en psychologie à l'Université de Tours. Je suis brésilienne. Hamza, il m'a invitée à participer, c'est le 27-28, pour participer d'une action bénévole ici. Du coup, je vais aider, mais je viens de connaître l'association, en fait, j'ai connu par Facebook. Et parce que je suis déjà allée au Reste du Cœur, par exemple, et je voulais connaître d'autres associations aussi. Oui, avec la crise du Brésil, maintenant, avec cette crise sanitaire, notre monnaie, le réel brésilien, il est beaucoup dévalorisé en comparaison au euro. Donc, quand je paie en euros, par exemple, c'est comme si je payais 6 euros. Du coup, c'est compliqué, je fais vraiment une aventure cette année. mes parents m'aident comme ils peuvent, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Donc, il faut qu'à partir de l'année prochaine, je trouve un travail, quelque chose pour m'aider parce que ce n'est pas suffisant. Je suis au CROUS, oui, je suis au CROUS parce que c'est l'option moins chère et c'est aussi parce que j'ai choisi des villes en France. Par exemple, je ne pouvais jamais choisir Paris. C'est trop cher pour moi, vraiment trop cher. Une chose, par exemple, que je ne peux pas faire encore, c'est un forfait Internet. Je dépends des Wi-Fi public, des Wi-Fi du CROUS, parce que je ne peux pas. Un forfait genre 15 euros, c'est déjà cher pour moi. Du coup, il y a cette difficulté aussi au niveau connexion. Au niveau, si tout est plus cher ici, vraiment tout est plus cher, donc c'est d'une escale globale, générale. Je fais un calcul mental ici, genre, dans les meilleurs mois, 300 euros. Ouais. Du coup, de 300, parfois 300 quelque chose, et mais la chambre au CROUS, c'est déjà 255. Et ça reste pas beaucoup pour faire quelque chose.
50 euros ou 45 euros. 45 euros pour le transport, déjà, ça part 27 euros. Et puis, bah, il lui reste 10 euros. 10 euros, ce que c'est peur pour s'habiller ou pour acheter des produits d'hygiène pour elle ou pour faire un abonnement téléphonique ou pour l'argent de poche. Voilà. Donc,
Est-ce que justement vous avez imaginé travailler aussi peut-être sur les produits d'hygiène? Est-ce que vous avez des pistes pour faire des récupérations, etc., par rapport à ces produits-là?
Oui, en fait, on a une association en partenariat qui s'appelle Entraide IAE, qui est sur de Lyon. En fait, eux, ils contactent de leur part pas mal d'entreprises qui pourraient nous aider en fait à nous fournir des produits d'hygiène et des produits sanitaires.
Il y aura même une action qui sera mise en place par la Banque alimentaire. En fait, c'est un budget d'État en fait donné à la Banque alimentaire qui va en fait le distribuer sur quatre associations. Et nous, on était choisis par la Banque alimentaire pour nous donner des produits d'hygiène.
Ouais. Il y a également un point, je sais pas si ça vous dit, la précarité menstruelle.
Bien sûr.
Donc c'est à destination des femmes, c'est pour en fait pour leur aider en fait à acheter les, vous savez, les serviettes.